Et à midi, on aime l'été. Quand même, Christine Tassin et les imposteurs. Eh oui, quand même, prix Opus hein, cette année, meilleur album de jazz. Et il y avait des pointures là-dedans, il y avait Lorraine Desmarais, il y avait tout ça. Si vous voulez que je vous parle de musique, mes amis, c'est quand vous voulez, mais je ne suis pas là pour ça. Bonjour, c'est Clotilde Say, ça me fait plaisir de vous accueillir et de vous présenter aujourd'hui M l'été avec son lot de nouvelles, sa cascade d'entrevues. Vous allez apprendre encore une fois plein de choses sympathiques, ludiques même aujourd'hui, avec mes invités d'Abusco, jardin de Métis, un jardin très accessible ma foi. Et monsieur Rayford, qui est le directeur, va nous en parler. C'est un monsieur absolument charmant. Et puis on va retrouver Sarah Rouleau de l'INCa qui va nous parler de l'importance de la prévention en ce qui concerne sa vision. Également aujourd'hui à l'émission, quand je vous parlais de sujets ludiques, eh bien parlons de Ludociel pour tous avec la présidente et la cofondatrice Stéphanie Acré de ces jeux vidéo créés pour des personnes aveugles ou partiellement aveugles. Et puis nous finirons avec une chronique de sport, tiens, une fois n'est pas coutume, et avec Émilie Bouchard-Labonté, une chronique toute para-athlétisme. On commence par quelques nouvelles. Le gouvernement du Québec annonce qu'une somme de près de 340 000 $ provenant du programme Population Active sera consacrée à la promotion de la pratique régulière d'activité physique auprès de la population, particulièrement des personnes aînées et des personnes ayant des limitations physiques. La ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, en a fait l'annonce aujourd'hui, en fait elle en a fait l'annonce il y a maintenant quelques jours, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proux. Pour mettre en œuvre ce programme, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur peut compter sur ses partenaires que sont le réseau FADOC, la Fédération québécoise du loisir en institution, la FQLI, la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs ainsi que l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, la QLPH. Ces organismes proposent à leurs membres et à leur clientèle respective des activités physiques variées. Rappelons que la politique au Québec On Bouge, annoncée récemment, vise à augmenter la pratique régulière d'activités physiques, sportives et récréatives dans l'ensemble de la population. D'ici à 2027, le gouvernement du Québec souhaite voir augmenter d'au moins 10% la proportion de la population qui fait des activités physiques pendant ses temps libres et de 20% les jeunes de 6 à 17 ans qui font de même. Une somme de près de 64 millions de dollars répartie sur 3 ans est prévue pour la mise en œuvre de différentes mesures à cet effet. De plus, 507 millions seront investis pour soutenir des projets d'installation sportive et récréative aux quatre coins du Québec. Voici un billet d'humeur qui a été écrit par un monsieur Rémi Nadeau. Et c'est sorti dans le Journal de Québec et ça s'appelle « Payer pour voir ses proches ». Et il écrit ce monsieur « Où étions-nous lorsque la décision de faire payer les usagers pour le stationnement des hôpitaux et CHSLD a été prise ? Collectivement, comment avons-nous pu l'accepter sans broncher ?» Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain que sont apparus les tarifs exorbitants de 24 $ par jour au CHUM de Montréal ou de 16 $ au CHUL de Québec. On nous a fait avaler la couleuvre à petite dose, insidieusement. Les autorités ont plaidé le principe de l'autofinancement. Mais en 2014-2015, par exemple, le CHU a enregistré des profits de plus de 7 millions de dollars avec ses stationnements. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, estime que les tarifs exigés sont acceptables. Il argue qu'ils sont comparables aux autres dans ce marché, mais c'est là où le bât blesse, dit ce monsieur. Il y a toute une marge entre payer 15 $ de stationnement pour voir un show au centre Vidéotron et payer 16 $ pour prêter assistance à sa conjointe, malade, qui a été hospitalisée. Le stationnement de Place Bonaventure, tout près du Centre Bell, coûte 19 $, mais il faut débourser 22 $ si on passe un peu plus de 3 heures pour voir sa mère au Cusum. Il dit encore, ce monsieur, que ça donne mal au cœur, un haut-le-cœur de contribuables. Selon des chiffres répertoriés par la CAQ, 38 hôpitaux et autres installations de santé exigent des frais quotidiens de plus de 10% en stationnement. On y va pour soit pour recevoir des soins, soit pour voir des proches dans le besoin, et ça n'a rien à voir avec du divertissement. Alors bien sûr, les établissements doivent entretenir leur stationnement, et il y a un coût pour ça en déneigement, en asphaltage et en éclairage. Le gouvernement pourrait leur verser une compensation pour que la facture ne soit plus refilée aux Québécois. Ce serait une réduction du fardeau fiscal humaine et équitable, d'écrire ce monsieur dont je vous rappelle le nom, Rémi Nadeau. La Fondation des Étoiles est fière d'annoncer qu'elle remet 1 million de dollars aux 4 grands centres de recherche pédiatrique du Québec pour l'avancement de la recherche sur les maladies infantiles. Les fonds distribués sont dédiés à des projets prometteurs et donneront à des équipes de médecins et de chercheurs la possibilité d'investiguer sur des axes de recherche spécifiques. Le CUSUM étudiera l'inflammation et l'infection, le CHU Sainte-Justine, le neurodéveloppement et la santé mentale chez l'enfant, le CHU de Québec, les maladies rares, et le CHU de Sherbrooke, les problèmes de santé périnatale. Avec cette contribution significative, la Fondation des Étoiles mise sur l'excellence et l'innovation. Elle permettra aux enfants malades de bénéficier d'une collaboration unique entre les équipes de chercheurs émérites et de cliniciens de chacun des centres, puisqu'elles partageront leurs expertises et s'investiront concrètement dans le but d'améliorer la santé des enfants, donnant ainsi espoir aux familles, souligne le docteur Guy Rouleau, neurologue et directeur de l'Institut et Hôpital neurologique de Montréal et membre du conseil d'administration de la Fondation des Étoiles. Il y aura la Coupe du monde FIPFA, F-I-P-F-A, de football en fauteuil électrique du 5 au 10 juillet prochain. Ce sera la troisième Coupe du monde de FIPFA, de foot, donc fauteuil électrique, à Kissimmee, en Floride, aux États-Unis. L'occasion pour bien des pays de tenter de décrocher cette Coupe du monde, cette troisième, qui va donc, je vous le disais, se dérouler du 5 au 10 juillet, jusqu'au 10 juillet. Il y aura, attendez, les 10 pays voilà, en compétition, dont les États-Unis, qui sont les champions du monde en titre, l'Angleterre, l'Argentine, l'Australie, le Canada, le Danemark, la France, l'Irlande, le Japon et l'Uruguay. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 5 juillet à 19 h, heure locale. C'est un endroit absolument charmant, époustouflant. Des saveurs, des odeurs, on se régale littéralement et j'avais très très envie de vous amener là ce matin au jardin de Métis où nous attend de l'autre côté de la ligne Alexander Rayford. Bonjour Monsieur Rayford, oui. vous en êtes le directeur, hein, c'est bien
oui,
ça.
Oui, exactement, oui, bonjour.
Bonjour Monsieur, je suis vraiment ravie que vous nous parliez de ces jardins qui ont entre autres la spécificité d'être accessibles en grande partie pour les personnes à mobilité réduite. C'est bien ça, hein?
C'est bien ça, exactement.
Alors, quelle est la vocation principale d'abord des jardins?
Ben, en fait, c'est un jardin, je dirais pas botanique parce que c'est pas un lieu de recherche scientifique, mais c'est un jardin ornemental, on peut dire un jardin privé, maintenant public. Alors, on est là pour quoi? Émerveiller des gens,
oui.
Faire découvrir la beauté florale, les offrir bien sûr un lieu... je dirais magnifique, avec des paysages remarquables, des vues sur le fleuve, un musée, de la restauration, des expositions, un festival. En fait, c'était vraiment un complexe touristique très complet, mais qui a à la base la beauté comme raison d'être et comme lieu de démonstration et d'exposition.
Et on en a besoin de la beauté, hein?
Mais je pense que dans le monde, là, plus qu'on n'entend pas vos médias, parce que vous êtes peut-être dans un autre monde, mais dans les mondes des médias, avec toutes les complexités de notre société, on voit bien d'ailleurs les gens qui arrivent ici, ils laissent l'anxiété dans l'auto, ils commencent à marcher tranquillement, pas vite, les enfants deviennent un peu plus paisibles, on est dans pleine nature, on a des oiseaux, des colibris, des abeilles au travail.
Je vais y aller.
On essaie de minimiser d'ailleurs le son et bruit des tondeuses, malgré qu'ils sont présents, parce qu'on souhaite offrir vraiment un lieu de découverte
paix.
paisible et bien sûr un moment où on peut relaxer et admirer la beauté humaine qui travaille avec la nature pour l'améliorer un petit peu.
Auriez-vous la gentillesse de nous faire un petit historique de ces jardins de Métis?
Alors, en fait, c'est mon arrière-grand-mère qui était montréalaise d'origine, qui a passé sa vie à Montréal, mais qui avait le loisir et l'avantage d'avoir un lieu d'été au bord de l'eau ici à Grand-Métis. On est quoi, 580 km de Montréal, sur la rive sud du Saint-Laurent,
oui.
Entre Rimouski et Matane, et pas loin du village station balnéaire de Métis-sur-Mer. Mon arrière-grand-mère qui était d'abord et avant tout pêcheuse, mais qui a dû laisser la pêche à côté à l'âge de 53-54 ans, décide de se lancer dans une aventure de créer un jardin autour de son camp de pêche. Et pendant les 35 années qui suivent, à tous les étés, à tous les moments finalement de sa vie, le jardin devient passion un peu, un peu, comment dirais-je, préoccupante. Alors même l'hiver à Montréal, enseveli de la neige, bon, elle pense au jardin puis pense à comment l'améliorer l'année suivante. Alors c'est un travail d'une passionnée qui nous a légué en quelque sorte une création tout à fait remarquable.
Autrement dit, quand vous étiez un petit enfant, Monsieur Rayford, vous baladiez déjà dans ces jardins-là, vous?
Oui, moi j'ai l'avantage d'avoir connu un petit peu mon arrière-grand-mère, qui n'est pas toujours le cas des jeunes, mais elle a vécu jusqu'à 95 ans. Moi j'avais 5 ans lors de son décès en 1977.
Oui.
Et effectivement, ma famille sont dans le coin ici depuis très longtemps. Et mon grand-père, qui était la dernière propriétaire du domaine, avait une maison adjacente. Alors on venait à Métis souvent durant les étés. Alors ce coin du pays m'est familier, mais de plus en plus, bien sûr, parce que je suis pas juste un simple passant, passager ou visiteur, mais je suis maintenant le directeur d'une grande entreprise touristique qui est ouvert du début juin jusqu'à la mi-octobre.
Oui, c'est ça. Donc, ça ouvre le 5 juin, c'est ça? Et là,
oui,
vous allez jusqu'au 8 octobre, hein,
8
c'est
octobre,
bien ça.
Oui.
D'accord. Maintenant, je voudrais qu'on parle du fait que c'est un jardin qui est très accessible pour les personnes à mobilité réduite. C'est dû à quoi? Je veux dire, c'était une volonté de votre part ou même de votre ancêtre?
Ben, en fait,
comment c'est arrivé?
Je pense que nous, on a eu l'avantage d'avoir la visite d'André Leclerc il y a peut-être une dizaine d'années. André, qui est quand même un être humain assez motivant, il nous a dit, écoutez, votre jardin est très beau, mais peut-on penser que votre jardin soit plus accessible?
Mais oui.
Même chose avec Mme Thibault, qui était à l'époque le gouverneur. Qui était aussi en chaise roulante quand on l'a visité. Alors, ça nous a amené à repenser un petit peu et même faire l'exercice moi-même dans une chaise pour voir, on prétend accessible, mais est-ce vraiment le cas? Alors, avec des équipes ici présentes, dont plusieurs, comme ma mère, à 90 ans cette année, on constate que notre société a besoin de s'ajuster parce que ces personnes qui étaient autrefois pas en mesure de voyager, maintenant, sont des grands voyageurs et voyageuses.
Ben oui. Eh oui.
Mais on a pris aussi inspiration de mon arrière-grand-mère elle-même parce qu'elle a passé ses dernières années au jardin dans une chaise roulante.
Ah.
On a déjà, je pense, la base était faite, c'était déjà adapté, mais on a modifié un peu les rampes, on a modifié les marches. C'est loin d'être parfait, on se constate, exemple, la Villa Stevan, la maison historique n'a pas d'accès au deuxième étage, mais à chaque fois qu'on fait des interventions, on pense à tous ceux qui ont des difficultés de toutes sortes. Là,
bien
parce
sûr,
que,
mais...
On souhaite bien sûr refaire ce site au maximum de possible.
Mais ça vous honore, hein, M. Rayford, et puis c'est pour ça que je voulais à tout prix d'ailleurs qu'on se parle, parce que les jardins de Métis, à la limite, entre guillemets, n'ont plus besoin de publicité, mais sait-on que, justement, ces jardins sont accessibles, en tout cas en grande partie, hein, vous le dites vous-même, c'est pas du 100%, mais... C'est en grande partie accessible. Quels sont les moments attendus pour cet été au jardin?
Mais en fait, nous, on essaie d'offrir, puis mon équipe, qui est une grande équipe maintenant, travaille à offrir une programmation complète pour tous ceux qui visitent, parce qu'on sait bien que c'est pas nous qui planifions les vacances des gens, c'est eux qui ont des raisons de peut-être en venir à Gaspésie voir la famille, ou un festival, ou une activité familiale, ou une fête. Alors, on essaie d'avoir d'ailleurs la floraison au rendez-vous, mais aussi une panoplie d'événements et d'activités.
D'accord.
À venir prochainement, mais à tous les dimanches, on a des musiciens et musiciennes qui jouent la musique dans les grandes salles de la ville de Stavanger pour les gens qui souhaitent manger et s'accompagner un peu de la musique classique ou du jazz
pour
les jeunes musiciens de la région.
D'accord.
On a des événements culinaires, parfois dans l'été ou les vendredis ou samedis soir, notre chef, qui est vraiment un chef de grand talent, offre des produits régionaux, mais accompagnés par un souci d'aménagement et de plat assez remarquable. On a une immense quantité d'expositions cette année avec oui. Daniel Routaboul, qui est artiste paysagiste, Daniel Dorion, Hélène Dorion, un artiste poète.
Oui, une poétesse, oui, bien sûr.
Une poétesse
oui.
qui a fait une exposition de ses photos lors d'une résidence en Italie, magnifique.
Okay.
On a des expositions à l'extérieur sur le site. Et bien sûr, notre Festival de Jardin, qui est un peu notre marque de commerce depuis quelques années, où on présente des concepts, des jardins conceptuels faits par des grands architectes et architectes paysagers mm-hmm. du monde entier. On offre quand même quelque chose pour tout le monde, qu'il soit 3 mois ou 93 ans, on essaie d'avoir une programmation complète, sans parler bien sûr de la floraison qui est toujours présente et parfumée et qui parfume finalement notre visite lors d'une visite ici.
Et même si vous êtes loin, monsieur Rayford, ben quand même 580 km, il n'y a pas un petit clin d'œil au 375e anniversaire de Montréal dans vos plates-bandes en ce moment?
Oui, en fait, oui, il y en a même deux, hein, parce qu'on a incorporé dans nos plates-bandes il y a quelques semaines un métro.
C'est ça.
À la retraite, on peut dire.
Oui.
C'est un métro qui a déjà passé 55 ans en wow. service à Montréal. C'est maintenant ici. C'est un wagon qui a été retiré pour faire place aux autres. Alors, on a placé carrément au milieu d'une plate-bande à l'entrée du site. Alors, les fleurs poussent presque à travers. Et c'est un clin d'œil, effectivement, à Montréal, parce que Montréal, c'était l'origine de ma famille, mais aussi c'est l'origine de beaucoup de nos visiteurs.
Ah.
Alors, on les offre quelque chose qui est un peu familier. Tout comme on vient tout juste d'installer une magnifique installation à Montréal, par un Montréalais,
oui.
dans Vieux-Montréal. C'est une œuvre de Bill Vazan, qui est un land artiste de renom. Et l'œuvre reprend un peu ce qu'on appelle les pistes disparues. Et ça se trouve sur la place de Dauvassière, qui est avoisinante au musée du Château Ramsay, au plein cœur de Vieux-Montréal, en face de l'hôtel de ville.
Oh, à voir donc. Écoutez, monsieur Rayford, je pense que j'aurais pu vous poser encore plein de questions parce que j'adore faire cette promenade en votre compagnie ce matin et je suis sûre que nos auditeurs aussi, malheureusement, leur tournent. Et puis, nous avons d'autres sujets également à venir à l'émission, mais je voudrais vous remercier beaucoup pour ce que vous faites au Jardin de Métis et je vais vous souhaiter une très belle saison.
Mais merci mille fois pour votre intérêt. On apprécie beaucoup. Puis, effectivement, on est là pour desservir tout le monde, peu importe l'origine et leur capacité. Alors,
exactement. Et ça. Merci pour ces gens-là d'avoir pensé à eux. Au revoir, monsieur. Merci.
Merci.
Dime. ¿Para quién son esos ojos negros que se sienten solos? ¿Para quién tu timidez? Llanto de ese que curan los santos de una amargura de espanto. Sola, como en el polo la aurora, como una triste señora en un domingo sin sol, y no es culpa del amor, santa, tan solo prioridades y errores. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior, se deja ver y no teme decir te quiero, decir amor. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior, se deja ver y no teme decir te quiero, decir amor. Tú te pareces a esa luz que pinta el día pinceles, mariposa tus miradas, sol, la sonrisa que tienes. No busques más allí donde te dan dolor, deja que vivan en ti sentimiento y mejores momentos. Dime, ¿para quién son esos ojos negros que se sienten solos? ¿Para quién tu timidez? Llanto de ese que curan los santos de una amargura de espanto. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior, se deja ver y no teme decir te quiero, decir amor. Yo sé de un lugar que
si ça sonne pas comme l'été, ça, ça sonnera jamais comme l'été. Tout au long de la saison et de cette donc de la saison d'été et de la programmation de Canal M, nous allons avoir la possibilité d'entendre Sarah Rouleau qui est à l'INCA et qui nous a proposé très gentiment, elle a dit « Moi, je voudrais vous parler à chaque semaine, comme ça, bénévolement, pour qu'on parle, en l'occurrence, de votre vision. » Et aujourd'hui, un sujet qui lui tient, qui vous tient, qui me tient à cœur, l'importance de la prévention et quelques conseils pour conserver sa vision. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va bien. Un petit rhume, donc je parle peut-être du nez, mais ça va très bien.
Écoutez, c'est fou, hein, le nombre de gens qui se font un petit rhume en ce moment. Un rhume d'été, vous avez?
Oui, oui.
Oh, mais ben bon. Remarque, mais bon, allez. Oh, ben, on vous remercie quand même de bien vouloir participer, Sarah.
Ça fait plaisir.
Alors,
oui.
L'importance de la prévention, on ne le dira jamais assez.
Oui, effectivement. Ben, surtout, pourquoi là, je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a 75%, donc la majorité des pertes de vision qui peuvent être évitées ou traitées.
Vous n'êtes pas sérieux, 75%?
Oui, donc c'est pour ça je trouve que c'est un sujet là, important, parce que ben, d'éviter une perte de vision, c'est quand même important. Hein?
Mais oui, non, c'est sûr.
Et dans un des premiers trucs, des conseils que j'ai à donner, c'est vraiment de consulter régulièrement un spécialiste de la vue, donc idéalement une optométriste, puis de surtout de ne pas attendre d'avoir des symptômes. Donc c'est sûr que si on sait qu'il y a des pertes de vision qui peuvent être évitées ou traitées, ben, on s'imagine que plus vite elles sont détectées, plus vite on a de chances de sauver notre vision. Mm-hmm. Et aussi souvent, les gens, j'ai pas de symptômes. Mais au contraire, il y a beaucoup de maladies oculaires qui se développent et qui n'ont pas de symptômes. Par exemple, on peut penser au glaucome. Les gens, ils l'ont, mais ils ne le savent pas. Puis quand on attend trop longtemps, il peut être trop tard. Donc, ne pas attendre d'avoir des symptômes pour consulter. Et aussi, tu sais, des fois, peut-être chez les personnes âgées, ils vont se dire, c'est normal.
J'ai la vue qui baisse.
C'est l'âge.
C'est ça.
Sauf qu'une maladie oculaire, c'est pas normal. Tu sais, on peut l'éviter. Cette perte de vision-là. Mm-hmm. Donc, mon premier conseil, là, c'est vraiment de consulter un optométriste régulièrement. Et même les enfants, hein, on est censé, là, avant qu'ils aient à l'école, qu'ils commencent l'école, qu'ils aient aussi voir un optométriste. Fait que ça, là, si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là.
Bon, alors, première chose. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses que, par exemple, il faut éviter pour augmenter?
Oui. On sait entre autres, là, c'est les choses de santé de base, mais qu'on voit qui ont une incidence là, sur la santé des yeux. Éviter de fumer.
Ah oui?
Oui, les fumeurs, ils ont 3 à 4 fois plus de chances de développer la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Ah oui.
Puis la DMLA, là, qu'on dit, une des principales causes de perte de vision chez les 50 ans et plus. Donc, si on peut aider en cessant de fumer, ce serait un bon conseil.
Mais oui, absolument.
Et aussi, c'est peut-être pas à éviter, là, mais les gras ou les... Donc, dans le fond, si je vais plus positivement, ce serait de bien manger et de faire de l'exercice.
Oui.
Donc, il y a plusieurs raisons pour ça. Là. On se doute que c'est bon pour notre organisme.
Oui, non, mais ça, c'est clair. Pour les yeux.
Oui. En fait, le surpoids, le mode de vie sédentaire, la tension artérielle, c'est des facteurs de risque pour plusieurs maladies oculaires. On connaît aussi la rétinopathie diabétique chez les personnes qui ont le diabète. Donc, tout ce qui peut aider à prévenir le diabète ou à le contrôler, on s'entend que ça va aider. Le diabète aussi, c'est une autre des maladies oculaires là, qui est... Pas le diabète, la rétinopathie diabétique. Une autre des maladies oculaires très répandues. Et on sait, c'est ça, les gras, les viandes rouges, c'est à éviter. Mais sinon, les légumes, surtout les légumes verts, les fruits, faire de l'exercice, tout ça, ça peut aider parce que c'est des nutriments qui vont aider aider les yeux.
Je comprends. Oui, d'accord. Je comprends. On dit toujours que quand il y a du soleil, c'est important de porter des lunettes de soleil. Vrai ou faux?
Oui. Oui. Mais oui, les lunettes de soleil, ça sera un autre conseil absolument à suivre.
Ah oui.
Même tu sais, quand il y a des nuages, des fois, bon, oui. Il y a les rayons aussi. Mais les lunettes de soleil, on le sait, là, les rayons UV vont être dommageables pour les yeux. Mm-hmm. Entre autres, là, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ça peut l'aider. Et je parlerai encore une fois là, des enfants.
Ah,
les
oui,
enfants,
hein.
Souvent, ne portent pas de lunettes de soleil. Et pourtant, ils sont plus vulnérables aux rayons UV. Donc, les lunettes de soleil, c'est très, très important.
C'est vrai. Hein? On les voit toujours, par exemple, là, les petits culs quand ils se baladent, vous savez, là,
oui.
Quand ils sont... Alors, ils ont tous un petit chapeau sur la tête, mais...
Au moins, le chapeau aide.
Bah, au moins, il y a le chapeau.
Les deux, c'est encore mieux. Mais oui, donc, on les oublie souvent. Nous, on en met. On commence à savoir que c'est important. Puis la crème solaire, on leur en beurre épais, les enfants. Mm-hmm. Mais on oublie souvent les lunettes de soleil.
Alors, il y a aussi des lunettes de protection.
Ben oui,
hein?
c'est ça. Exactement. Donc, on pense de plus en plus aux lunettes de soleil, mais autant au bureau que quand on fait de la construction à la maison, oui. Ou même les enfants, encore une fois, là, quand ils font du sport, les adultes aussi, c'est bon d'avoir des lunettes de protection pour se protéger des yeux. Il y a 90% là, des blessures aux yeux qui sont causées en pratiquant un sport qui pourraient être évitées.
Encore
là, on parle de prévention. Hein? Oui. La majorité, si on avait des bonnes lunettes, ce serait évité. Puis chez les enfants, c'est souvent chez les jeunes là, de 11 à 14 ans, c'est les blessures oculaires, c'est souvent la principale cause de cécité. Donc, on espère conserver une bonne vision chez nos enfants. C'est bon de sensibiliser l'école ou en tout cas
bien
sensibiliser
sûr.
Nos enfants à porter des lunettes de protection, là, surtout quand c'est des sports de balle ou de contact. Puis les travailleurs, même chose, travailleurs au bureau ou à la maison, là, quand on fait de la construction, ben toujours porter une protection pour ses yeux.
L'heure tourne, Sarah Rouleau, il y a une question qui me brûle les lèvres. Je vois de plus en plus de jeunes qui utilisent des lentilles colorées ou alors des femmes qui vont utiliser des fossiles.
Oui.
Est-ce que ça peut être un danger pour les yeux?
Bien, souvent, ça va être un risque d'infection.
Ah oui.
Ou de brûlure. Donc, à la base, bon, ça c'est pas nécessairement ultra dangereux, mais ça peut être très inconfortable.
Oui.
Mais il y a toujours des complications qui peuvent arriver. Donc, oui, ça peut créer la cécité. Souvent, les optométristes, on le voit dans le temps de l'Halloween, essaient de soulever l'attention des gens sur les lentilles colorées.
Oui.
On les achète souvent sur Internet. Donc, sans avoir aussi les notions de comment bien les nettoyer, comment bien les mettre. Puis quand on les met mal, s'il y a une coupure, s'il y a une infection qui se fait, c'est là que ça peut être dangereux. Même chose sur les fossiles. Les optométristes au Québec, ils voient de plus en plus de jeunes femmes arriver dans leur bureau où ils ont des brûlures aux yeux, ou des fois ils ont des infections,
brûlures aux yeux,
des fois des allergies aussi là, la colle qui est utilisée. Donc, c'est important dans les deux cas, là, si c'est des lentilles ou des fossiles, d'avoir un professionnel qui sait, soit vous expliquer
d'accord.
les bonnes choses,
Sarah,
ou bien vous le posez.
En conclusion, nous avons deux yeux, protégez-les.
Oui.
Protégeons-les. Voilà.
Oui,
merci beaucoup, Sarah Rouleau. À une prochaine fois.
Merci
Salut.
Beaucoup.
C'est la seconde partie de l'émission. J'allais dire des livres pleins les oreilles. Je suis un petit peu confuse parce qu'on n'arrive plus du tout à fermer la porte de ce studio. Ça risque de claquer un peu. Ça y est, il a réussi. Voilà, alors du coup, d'où mon retard. Et d'où vous avez pu profiter un petit peu plus de la musique de Christine Tassin et Les Imposteurs. Je voudrais maintenant, je suis très très heureuse et j'ai bien hâte de poser toutes sortes de questions à la présidente et cofondatrice de Ludociel pour tous. Elle s'appelle Stéphanie Acré. Bonjour, Madame Acré.
Bonjour.
Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir à cette émission-là. Lorsque j'ai pris connaissance, parce que c'est comme ça que je vous ai connue, j'ai pris connaissance d'un papier que vous avez rédigé dans l'excellente revue L'Éclaireur, qui est la revue de l'ACPEV, l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. Et c'est évidemment un article sur les jeux vidéo accessibles que vous connaissez bien pour avoir vous-même créé créer un studio de jeux accessibles aux personnes en difficulté visuelle ou d'autres difficultés?
Oui, en effet. Donc, notre organisme Ludociel pour tous, qui a été créé en 2013, donc on crée en particulier donc des jeux accessibles pour des personnes avec des difficultés visuelles, mais aussi pour des personnes avec d'autres types de handicaps, d'autres types de publics. On fait des jeux sociaux, en fait.
Des jeux sociaux. Alors, je vais tout de suite vous poser la question, où est-ce qu'on peut les trouver, ces jeux-là?
Alors, on peut les trouver en ligne, en fait, sur notre site internet.
OK.
Ludociel pour tous.org. La plupart de nos jeux sont gratuits. On les développe grâce à des projets. On reprend des appels à projets. Et puis, d'autres de ces jeux-là sont disponibles sur des plateformes où on peut les télécharger. C'est pour ça qu'on est toujours intéressé d'avoir des retours de certains des joueurs qui disent si ces plateformes-là sont accessibles,
ils
arrivent à bien trouver les jeux.
Bien sûr.
Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie, lorsqu'on m'a proposé donc de participer à l'écriture de cet article pour l'Éclaireur, j'ai eu envie donc de joindre à l'article des références de sites internet et de jeux audio accessibles, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile pour les personnes avec des difficultés visuelles de connaître ces sites-là et de savoir où chercher des jeux qui leur sont adaptés.
Et je peux déjà vous dire que sur le post de l'émission du jour, tous ces sites-là seront repris sur notre site internet à nous, donc sur le site de canalm.org. Alors, pour les gens qui nous écouteraient là, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir retrouver ça très facilement, que ce soit sur le site Ludociel pour tous, ou alors sur le site Canal M. Et puis, vous vous êtes forcément entouré pour créer ces jeux-là de gens qui les utilisent, qui sont de fervents amateurs, parce qu'il ne faut pas croire, les personnes non-voyantes adorent les jeux vidéo, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. C'est ça finalement qui a aussi motivé cette écriture d'article.
Oui.
C'est que en discutant justement avec les personnes que nous rencontrons grâce à nos activités, beaucoup d'entre eux nous ont dit que finalement, ça n'était pas toujours. Ils ont découvert assez tardivement qu'il y avait des jeux qui leur étaient accessibles, parce que c'est encore confidentiel, on va dire, comme milieu.
Mais oui, absolument. D'où mon intérêt, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour eux, je pense, d'avoir des interlocuteurs comme nous, par exemple, ou comme d'autres sites qui font un peu le relais de ce qui existe, qui vont chercher pour eux à droite, à gauche, et qui, en fait, mettent les références sur les différents sites, créent des annuaires de jeux, etc.
Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce que les personnes non-voyantes recherchent dans ces jeux-là et qu'ont-ils de spéciaux, de plus ou de moins?
Alors, une des choses qu'on nous a dit, c'est que déjà ce qu'ils recherchent, c'est de faire partie de la même culture des jeux vidéo, on va dire, que les personnes voyantes.
D'accord.
Donc déjà, ne pas être laissé de côté, tout simplement.
Oui, donc si j'entends bien ce que vous nous dites, c'est que tous les sujets sont bons pour faire un jeu vidéo audio, je veux dire un jeu vidéo pour les personnes malentendantes, y compris les sports de voiture, par exemple.
Oui, tout à fait.
Y compris, y en a même un, à un moment donné, vous parlez d'un... On est dans un bowling.
Oui, exactement, bowling, ça peut être aussi... du vol en avion, en hélicoptère, des simulations de vol, ça c'est très apprécié aussi.
Alors évidemment, la bande sonore est importante, l'audio est essentiel, c'est peut-être
exactement
la grosse différence.
Exactement, c'est ce que nous disaient certains joueurs, donc c'est pour ça qu'on utilise un son en stéréo, on utilise aussi des variations de hauteur de son, des variations de fréquence, si le son vient de la droite vers la gauche pour simuler un mouvement, Donc, si par exemple il y a une recherche d'un objet, eh bien on va le sonoriser, le son va augmenter de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'approche, un peu comme on joue à tu brûles, tu etc. Pour que les personnes arrivent à s'orienter en fait dans l'espace.
Oui.
Et puis aussi, ça va être la façon dont ça va être enregistré. Donc, ce qu'on nous a confié, donc, c'était que ce fameux son binaural, qui est très important et qui permet de bien se situer dans l'espace et d'être complètement en immersion, en fait, et de pouvoir s'imaginer par les sons que...
Ah oui, non, c'est fou, hein. À un moment donné, là, d'ailleurs, dans votre article, il y en a un qui parle, lui, c'est un passionné de vol, simulation de vol, dans des avions militaires, dans des avions de guerre. Donc, ça pétarade de partout autour de lui. Évidemment, il ne faut pas qu'il se fasse descendre, hein, j'imagine.
C'est toujours...
Et donc, il se repère uniquement par le son. C'est quand même fantastique. Moi, je dois dire que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je ne peux pas vous dire que je sois très, très fanatique, je le fus, de ces jeux-là. Mais justement, je me posais la question depuis longtemps, que fait-on pour les non-voyants? Est-ce que chaque jeu qui sort pour les voyants, est-ce qu'il existe pour les non-voyants?
Malheureusement, non.
Okay.
Justement,
oui.
Ça fait partie des demandes en fait des personnes
bien
non-voyantes.
Sûr.
Les studios de jeux, les gros studios de jeux, les grosses équipes, ça ne fait pas partie des problématiques qu'ils ont envie de résoudre.
Oui.
Je ne sais pas exactement quelles sont leurs raisons, je ne peux pas parler pour eux. Je pense que ça demanderait certainement un surcoût, peut-être des compétences que les équipes n'ont pas forcément,
okay,
ou peut-être qu'ils n'y pensent pas compte tenu du public pour lequel il faudrait faire ces efforts-là. Ce sont j'avance des idées là.
Je comprends, je comprends. effectivement, Stéphanie. Et dites-moi, ils existent, ils sont bilingues en français et en anglais ces jeux-là?
Malheureusement, non.
Donc,
ils sont beaucoup en anglais, mais justement, certains organismes, certaines associations s'organisent pour demander l'autorisation de pouvoir les traduire. Et puis, donc ça, c'est beaucoup du travail bénévole. Hein.
Ce
sont des jeunes, des moins jeunes, on va dire.
Vous avez besoin de voix, sûrement?
Oui, tout à fait, qui se contactent sur Internet.
Okay.
Et puis, ils s'organisent, ils essayent d'aller demander les autorisations et puis de traduire ces jeux-là. Si le jeu n'est pas accessible et qu'il y a la possibilité, si ça ne demande pas trop de, si c'est pas trop difficile au niveau technique de le rendre accessible, c'est pareil aussi. Ces équipes bénévoles qui se forment et se reforment essayent c'est possible de le rendre accessible.
Alors. Donc, là, j'ai les sites en question, je disais, qui se retrouvent aussi sur Canal M. Quelques-uns en français, par exemple. Il y a Top Speed 3 qui a été traduit en français par l'AGS Média. Qu'est-ce que c'est l'AGS Média?
Alors, c'est ça, justement. C'est une de ces...
D'accord.
Un de ces organismes
qui s'organise
donc bénévolement.
D'accord.
Donc, j'ai discuté avec son président, Julien Rombaud, qui lui-même... est aveugle et se déplace en fauteuil roulant. Donc très intéressé pour rendre accessibles les jeux.
Oui.
Et aussi donc de les traduire. Donc
de
des
les
jeux
traduire.
Sont déjà accessibles en anglais et il essaye donc grâce à son organisme, donc AGS Média, de les traduire en français bénévolement et de les proposer ensuite gratuitement sur son site internet.
Alors sinon, je voudrais faire savoir à nos auditeurs qu'il y a le Salon, c'est une plateforme de jeux en ligne qui est gratuite et c'est un site en français, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Donc,
d'accord.
Là, un jeune aveugle, Quentin, lui, je pense qu'il est suisse. Donc,
oui.
Son site est disponible en français.
Formidable.
sur Internet et donc il propose toute une liste de jeux. Donc lui, c'est beaucoup des jeux de société qui sont rendus accessibles en ligne, donc des jeux de société, des jeux vidéo de société.
D'accord.
Accessible.
Donc, alors, ouais. Le salon Crazy Party, ça aussi, c'est un site en français, croyez-le ou pas.
Exactement.
Top Speed 3 aussi. Il y a aussi L'Oreille mène l'enquête, parce que là, l'heure tourne. Et puis, allez sur le site de Ludociel pour tous. Ça, c'est vraiment un répertoire hein, de jeux sonores. Donc, c'est ce que vous avez créé. Et c'est un site en français. Alors oui, il y a moyen d'aller chercher gratuitement des jeux audio, vidéo pour des personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes. Et c'était le but de notre entrevue ce matin. Je remercie beaucoup Stéphanie Acré d'avoir
Merci
répondu à toutes
invité.
Ces questions. Mais je vous en prie, passez une belle journée puis continuez ce beau travail parce que je sais que vous essayez toujours d'améliorer
oui,
les jeux
exactement.
Vidéo. Eh bien bravo. Merci,
merci beaucoup.
Stéphanie, au revoir.
Au revoir.
Tambuni tani Mi tutulu ye fati enana Kama pitu mani Rati mietika tika nyaniti Tista vel wan mandimbi Tiken tingra tua kaveri ni fana tenan zareu ireu zava poare e pa tuta vuku ireu zava poare e pa tuta vuku
Alors, je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Seil, c'est l'émission Aime l'été, et j'accueille maintenant une jeune femme qui sera une de nos chroniqueuses aussi assez régulière à cette émission-là. Et avec elle, nous parlerons de parasport. Bonjour Émilie, Émilie Bouchard-Labonté.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien?
super bien, vous aussi.
Bon, oui, ça va très très bien. Alors Émilie, vous êtes nos yeux, nos oreilles pour tout ce qui concerne les paractualités sportives que nos amis français appellent le handisport. Et pourquoi ? C'est parce que vous faites partie de Sportcom, .ca, c'est bien ça ?
Exactement. Sportcom est une agence de communication, une agence de presse spécialisée dans la diffusion de nouvelles sportives pour les athlètes québécois, autant des nouvelles sportives qui touchent des athlètes olympiques ou paralympiques. Mm-hmm. Alors, c'est toujours notre mandat de faire rayonner les athlètes québécois lorsqu'ils sont sur la scène internationale. Et on a des très beaux athlètes paralympiques
oui.
dans l'eau.
Parce que nous aussi, c'est notre mission de faire ça. Alors, il était normal qu'à un moment donné ou à un autre, on se rejoigne, Émilie.
Voilà.
Alors, dites-moi de quoi sera faite votre chronique de parasport aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de para-athlétisme, puisqu'on est en plein cœur des championnats canadiens d'athlétisme qui sont présentés présentement à Ottawa.
Oui.
Les deux dernières journées, c'est-à-dire mardi et mercredi, donc ça s'est terminé hier, c'était vraiment concentré pratiquement exclusivement sur les épreuves en para-athlétisme. Donc, on a quelques champions canadiens qui sont québécois du lot. Mm-hmm. D'abord, Jean-Philippe Maranda, 4 médailles d'or pendant ces deux jours de compétition dans les courses en fauteuil roulant.
Oui.
Très belle performance pour lui. Donc, lui est un athlète chez les T53. Vainqueur aux 200 mètres, aux 100 mètres, aux 400 mètres, aux 800 mètres, particulièrement satisfait de sa finale, en fait de son chrono aux 200 mètres.
D'accord.
C'est un chrono qui n'est pas son meilleur temps, mais tout près de son meilleur temps. Alors, il était vraiment satisfait de rouler pour la deuxième fois de sa vie sous les 27 secondes. Donc, ça l'augure vraiment bien parce que les championnats du monde sont vraiment à notre porte aussi.
Mm-hmm. Dites-moi, pardonnez mon inculture en parasport, mais T53, comme?
En fait, les athlètes en fauteuil roulant sont catégorisés dans différentes classes pour qu'ils puissent compétitionner selon leurs différents handicaps.
Oui.
Si c'est une amputation, un handicap un peu plus sévère et tout ça. Donc, c'est la charte qui, eux, se donnent. Chez les T50, généralement, c'est des courses en fauteuil roulant. Mettons, si on parle de T13, dans les T10 ou la dizaine, là, ça va être des personnes qui vont courir debout, mais qui ont peut-être des handicaps visuels. Il y en a d'autres que c'est avec... Ils vont avoir des prothèses.
D'accord,
ils vont courir, tout ça. Donc, c'est la façon dont ils classifient.
Oui, je comprends. Alors, vous aviez d'autres nouvelles pour nous et d'autres champions dont vous vouliez évoquer les exploits.
Exactement. Il y a Diane Roy aussi qui a fini le championnat canadien hier avec deux médailles d'or, elle chez les T54, donc aux 400 mètres et aux 1500 mètres. Très belle performance pour Diane qui célèbre cette année ses 25 ans de carrière. Alors, c'est une longévité sur leur circuit.
Wow.
Elle est pas mal... Elle est toujours parmi les athlètes dominantes à surveiller. Je parlais aussi, bon, pour les athlètes avec pour les non-voyants ou les malvoyants.
Oui.
On a Guillaume Ouellette chez les T13 qui, lui, est champion du monde en titre, donc devra défendre son titre chez les T13 aux 5000 mètres qui va avoir lieu au championnat du monde, comme je rappelle, à Londres la semaine prochaine. En fait, ça commence le 13 juillet.
Okay.
Et qui est médaillé d'or aussi, lui, pendant les championnats canadiens. Récemment, en plus, il a fait son record personnel sur la distance dans une compétition, dans une course à Québec, qui a déjà été sous le record du monde. Bon, le record du monde a été battu par la suite, donc ça va être vraiment un prétendant à une médaille très sérieux en vue des mondiaux.
Est-ce qu'il court tout seul ou est-ce qu'il est accompagné d'un guide?
Comme lui, il n'a pas une déficience visuelle à 100%, il court seul. Je pense que chez les T12, alors, ils sont accompagnés d'un guide.
D'accord. Oui. Donc, T13, pas de guide. T12, guide. Ah, je vais finir par l'apprendre à un moment donné, vous savez.
Voilà.
À la fin de l'été, je vais tout savoir grâce à vous. Alors, et puis, il y a donc les championnats du monde. Ça, c'est bientôt et ça va se passer où?
Ça va être disputé à Londres du 14 au 23 juillet.
Mm-hmm.
Et
C'est vraiment intéressant parce que je pense que ça va se passer dans le stade olympique où il a accueilli les courses des Jeux olympiques de Londres en 2012. Donc, un parcours très rapide où plusieurs records du monde pourront peut-être être battus. Puis, en parlant de records du monde, ben, il n'est pas présentement au championnat canadien, mais Brent Lakatos, qui est un athlète de Dorval, lui, va avoir des titres à défendre aussi et des records du monde à défendre. Ça a très bien été pour lui au championnat suisse ouvert et à des compétitions en Suisse récemment, où il a fracassé non seulement un ni deux, mais trois records du monde sur la piste dans sa catégorie.
C'est fantastique. Hein?
Puis ça, ben c'est un athlète encore qui ça fait très longtemps qu'il est sur le circuit dans les différentes compétitions internationales. Plusieurs médailles à son actif et c'est le changement de gants, un changement de gants qui a créé tout ça, réécrire le livre des records du monde à ce moment-là. Il courait avant, il mettait des gants mous, ce qui était meilleur pour les départs, mais des gants durs, là, ça, c'est préférable pour lorsqu'il est en vitesse de pointe. Donc, c'est vraiment une différence.
C'est fou, hein?
Juste avec des gants.
Que de détails,
Oui, voilà.
Que de détails.
C'est une différence, surtout dans des sprints, là, quand on parle un 100, un 200 mètres, un 400 mètres, c'est une vingtaine de secondes maximum, alors ça va vite, là. Mais juste les gants comme ça, ça peut faire la différence.
Et c'est permis, hein, parce que, vous savez, parfois, je sais qu'au tennis, par exemple, à un moment donné, il y avait eu un scandale avec les raquettes à double cordage, finalement, qui ont été bannies. Hein, mais ça, on parle vraiment d'outils qui sont permis, qui peuvent être utilisés.
Absolument.
D'accord.
Absolument. Bon, en faisant la course en fauteuil roulant, comme c'est avec on se propulse avec les roues, c'est avec nos mains qu'on fait avancer les roues, c'est sûr que ça prend une protection pour les mains. Donc oui, c'est des outils qui sont acceptés.
Absolument,
dans
bien sûr. Et puis, il y a d'autres athlètes qui vont prendre la direction. Il y a des Jeux du Canada cette fois-ci. Ça, ce sera à la fin du mois.
Exactement, les Jeux du Canada commencent, si je me rappelle bien, le 26 juillet, ils vont se dérouler à Winnipeg. Uh-huh. Alors, on va voir quand même quelques Québécois aussi de la délégation. Les Jeux du Canada, il va y avoir autant des épreuves en athlétisme qu'en para-athlétisme.
D'accord.
Qui va être condensé dans la même période. Et plusieurs Québécois qui seront présents. Lee Leclerc, entre autres, uh-huh. qui vient, lui, récemment, de fracasser un record canadien. Alors, ça va être intéressant à le voir en action.
Dans
là-bas.
Quelle discipline?
Ça va être dans les courses en fauteuil roulant. Lee, je pense qu'il va participer au 400 mètres. C'est pas dans cette épreuve-là que c'est une épreuve plus en longue distance que fait son record canadien. C'est au 1500 mètres.
Okay.
Je suis pas certaine que l'épreuve va être présentée, aux Jeux du Canada, mais
d'accord.
Quand même, c'est vraiment. Ça va être vraiment un athlète à surveiller. Je pense qu'il est sur le podium ou pas très loin là, à cette distance-là aussi au championnat canadien actuellement. Sinon, il va y avoir aussi deux athlètes qui vont être en fauteuil roulant, mais dans les épreuves de lancer, donc lancer du poids et lancer du javelot, donc Jade Laplante et Maxime Landry là, qui seront à surveiller dans ces deux épreuves-là.
D'accord. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup parce qu'une chance que vous êtes là pour nous, hein, pour nous faire savoir, pour nous faire connaître tous les exploits et les espoirs surtout de ces athlètes-là. J'ai déjà hâte à la prochaine chronique. J'espère que vous nous en reparlerez et que vous nous direz si finalement ils se sont accrochés une médaille au cou ou pas.
Absolument, hein? On fera le tour. Puis
on fera le tour.
Va être vraiment le mois de juillet va vraiment être excitant pour tous ces athlètes-là.
Parfait.
Et pour bien d'autres. Donc, je pourrai en parler davantage la prochaine fois.
Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Émilie. Je vous rappelle que Émilie Bouchard-Labonté sera notre chroniqueuse sportive à l'émission Aime l'été, tout l'été, avec peut-être une autre personne. Il y a un autre nom qui circule et qui pourrait peut-être nous faire quelques chroniques à venir. Merci beaucoup, Émilie Bouchard-Labonté.
Bonne journée.
À vous aussi, salut. Et puis, quelques nouvelles en rafale pour terminer. D'abord, sachez que sur Ami Télé, dès le 18 juillet, vous pourrez suivre les enquêtes d'Anne Fortier et de l'équipe du SAS tous les jours de la semaine à midi, en rediffusion à 18h. Alors, je vous conseille plutôt la rediffusion parce que sinon, vous allez rater M l'été. Retrouvez cette psychologue maladroite, mais dont le sens de la logique et de la déduction lui permettent d'aider à élucider les crimes et les menaces qui pèsent sur la ville de Montréal. Tiens, parlant de télévision, les jeunes de la Fondation des aveugles du Québec visitent les studios de Radio-Canada à Montréal pour suivre un atelier de télévision. La visite a lieu le 12 juillet prochain. On s'informe auprès de la Fondation aveugle au pluriel .org, Fondation au singulier aveugle au pluriel .org. Activité de pétanque maintenant. Tous les mardis à 18h45, les membres du Conseil canadien des aveugles de Longueuil vous invitent à venir jouer à la pétanque avec eux. L'activité se déroule au terrain du parc Le Cavalier à Longueuil. C'est à 18h45. On peut s'informer sur le site CCALON, donc C-C-A-L-O-N-G-U-I-L, donc en fait c'est ccalongueuil.org. Et enfin, pour pouvoir discuter peut-être avec les gens qui ont fondé Autres Créatifs, vous savez, ces gens qui tentent de rassembler les autistes ensemble pour comprendre quelle vision ils ont du monde et comment ils communiquent, eh bien le 23 juillet 2017 à 14h au pavillon du Mont Arthabaska, sans chemin du Mont à Victoriaville, vous saurez tout puisque c'est la rencontre annuelle de Autres Créatifs, le 23 juillet prochain. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. C'était Clotilde Sey qui vous donne rendez-vous demain à midi.